Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est l'heure est grave et on se retrouve cette semaine avec celui avec qui je partage la charge de cette émission. Cette émission, nous la partageons. Il est le co-animateur de cette émission. Le co-animateur est là, sur la chaise. Le co-animateur va co-animer l'émission. La chaise est dans la salle où va être enregistrée l'émission. Cette émission, il faut l'animer, à deux, lui et moi. Le co-animateur est le garçon. Le garçon est là, le sublime, forcément sublime Raphaël. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et surtout... que le soir soit bon.
Et avec nous, le petit fan Zeus, pour nous accompagner dans cette grande race de ouf, il va nous mettre une arcade au folie, le petit bonnet, il va nous faire kiffer, c'est le plus grand dingo, on a jamais reçu dans cette émission, truc de ouf, truc de malade. Régissez sur Twitter et Boubouk, hein. Lui je l'adore, c'est Cyril, bonsoir Cyril, comment tu vas Cyril, tu kiffes Cyril?
Bonsoir à tous, j'ai ramené les nouilles.
Et on se retrouve cette semaine pour aborder l'un des mythes littéraires français du siècle dernier, l'un des plus chaleureux, sympathiques et limpides qui soit. Ce soir, on parle de L'Amant de Marguerite Duras, paru en 1984.
Alors déjà, moi, j'avais pas compris parce que j'ai lu un truc sur l'amant. Donc je vais faire des super thés à la menthe maintenant. Bah, du coup pour ce soir ça risque d'être compliqué.
Marguerite Duras, elle est née le 4 avril 1914 à Tianjin, à Saigon. C'est une femme de lettres, dramaturge, scénariste et cinéaste française. Après une enfance passée au Vietnam dans une colonie française, elle rentre en France en 1932, son bac en poche, et entreprend alors des études de mathématiques, scientifiques, juridiques, avant de décrocher son premier emploi au ministère des...
Colonie.
Oui, en 1939.
Colonie de vacances.
Oh, c'est mignon. Oh, oui. C'est bien plus dark.
C'était les colonies de vacances pour l'intégralité de la population, pour des millions de personnes.
En 1939, elle épouse Robert Antelme, puis signe alors l'année suivante son premier livre, L'Empire français.
L'Empire contre-attaque.
Et marrez-vous, c'est un bouquin commandé par le ministère des colonies,
oui, c'est
absolument immonde, hein, qu'elle regrettera toute sa vie.
Mais du coup, est-ce que c'est un bouquin qui parle de race?
Oui, elle parle, elle dit le mot race dedans pour le coup.
Il l'a pas eu, Marguerite Duras. La Seconde Guerre mondiale éclate et elle rentre alors en résistance, affronte la déportation de son mari, son attente et sa douleur. Puis enfin son retour. Elle divorce en 1947, épouse alors Dionys Mascolo, qui était le meilleur ami de son mari.
Après elle a couché pendant la guerre.
Eh oui, dans la douleur, elle raconte tout. Après un roman publié en 1943, c'est son récit autobiographique Un barrage contre le Pacifique en 1950 qui lui offre alors une reconnaissance nationale. Vont suivre alors Le Marin de Gibraltar, Le Square, Moderato Cantabile, Le Ravissement de l'Holstein ou encore Le Vice-Consul. Mais en 1984, elle obtiendra enfin le prix Goncourt pour
L'Amant.
Oui.
C'est le livre dont on parle ce soir.
Oui, Duras adapte également certains de ses écrits au théâtre ou signe encore des scénarios, notamment pour Hiroshima, mon amour, en 1960, qui lui vaut une nomination à l'Oscar du meilleur scénario. Elle passe alors à la réalisation en 75 avec India Song, puis suivent alors Le Camion et Les Enfants.
Le
avec...
Camion et Les Enfants.
C'est un seul et même film.
Les lunettes. La voiture. Oui, Marguerite, oui.
Celle va à l'avance sur recette. Il s'appellera comment ton film? La table.
T'as oublié de dire que c'était après son AVC qu'elle faisait ses films.
C'est quand même Marguerite Duras, on doit lui filer de la thune.
Son ultime livre sort en 1995 et s'appelle alors tout simplement C'est tout.
bye.
Elle décède en 1996 à l'âge de 81 ans et restant à jamais l'une des figures les plus importantes de la littérature du XXe siècle.
Il y a un point, moi ça m'a un petit peu choqué parce que je découvrais sa vie un peu en parallèle de ce bouquin, je découvrais un peu sa vie et je découvrais surtout son passage pendant la guerre, outre le fait ses histoires de cœur et de vie de femme pendant la guerre, donc avec...
C'est pas amour, gloire et beauté la douleur, hein, faut le comprendre tout de suite.
Amour,
hein.
Gloire et panzer. Il y a eu un quand même, elle traînait avec, enfin elle a joué un double jeu quoi, hein, c'est...
Ah oui, mais après c'était surtout pour pouvoir récupérer les informations sur son mari.
Bah c'est ce qu'on dit.
Ah bah oui, mais c'est ce qu'elle a plus ou moins fait.
C'est ce qu'elle a toujours dit, ouais.
Et surtout qui était son grand copain à l'époque, Tonton.
Ah bah oui, Mitterrand, il l'a sauvé d'ailleurs.
Bah oui, qui a été ministre des colonies après.
Ouais, il l'a empêché de se faire rafler d'ailleurs au moment où son mari s'est fait choper. Mitterrand a sauvé et s'est dit laquelle je peux me le faire. Bah pas le mari de Marguerite Duras, mais Marguerite Duras elle-même. Et son passage évidemment au ministère des colonies, ça aussi un grand moment.
Mais ce soir on parle de L'Amant, donc enfin le roman qui lui a permis d'obtenir le prix Goncourt en 84. Un roman qui en fait revient un peu autobiographique, un peu comme le barrage contre le Pacifique. Bien. Cyril, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce roman?
De L'Amant ou du barrage?
Non, de la vie en général et de tes amants à toi et alors, de tes amis allemands.
Alors si on parle de mes amants, l'émission va être assez courte. Mais concernant le roman parle assez brièvement en fait d'une petite fille française, donc dans les colonies en Indochine.
Dis bien qu'elle est française, oui.
Et ça nous raconte comment, à l'âge de 15 ans, elle a rencontré un chinois dont on
qui n'est pas français,
dont on connaîtra même pas le prénom d'ailleurs.
Est-ce qu'on peut mettre un trigger warning chinois. Tout de suite, on emploie vraiment les termes qui sont employés dans le bouquin.
Oui,
c'est ça, le alors, chinois
il
c'est
s'appelle
pas nous qui
il s'appelle le chinois de Cholène.
Oui.
On ne connaîtra jamais son prénom.
Je crois que quand on cite on a une remise de peine, donc on peut on va dire qu'on cite.
Et le seul indigène dont on connaît le prénom, c'est la bonne, elle s'appelle Do.
C'était Rémi en fait son prénom. Non mais alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est en effet un roman autobiographique qui est plein de détails, mais il faut savoir qu'elle a réécrit une version genre remastered.
Exactement.
Ça s'appelle L'amant de la Chine du Nord, et qui est en fait un roman qu'elle a été obligée d'écrire à la suite de l'adaptation cinématographique de L'amant en 1992
par
Jean-Jacques Hano. Non, qui lui a pas plu du tout, parce qu'elle a estimé que c'était bien trop esthétisant. Je vous invite à aller voir les films que faisait quand même Margaret Duras, qui sont les trucs les plus expérimentaux que vous n'aurez jamais vu de votre vie. C'est-à-dire que c'est des
le
plans
camion.
Fixes. Mais c'est, vrai, mais c'est vraiment genre l'amour est là, l'amour, la mort. c'est que ça, quoi.
C'est absolument blabla. Mais c'est bien que tu parles de ça, parce qu'en fait, plus que sa façon de filmer, qu'on ne connaît pas forcément, sa façon d'écrire est quand même très,
très particulière.
Ouais.
Ouais.
Moi, c'est.
Parlons-en-nous un peu.
Bah, c'était ma première expérience de lecture en tant que telle, et j'étais surpris. C'était ma première fois que je lisais du Marc Lévy.
C'est bien.
Oui, demain, je fais le camion, je vais apprendre les mots. Non, mais c'est quand même très bizarre.
Est-ce que tu peux nous décrire un peu à quoi ça ressemble, justement?
En fait, c'est très difficile à décrire, parce que c'est extrêmement descriptif, désordonné. Il y a pas le schéma de narration. Gaspard nous a fait un résumé haut la main qui suit un truc logique. C'est beaucoup moins logique dans le livre.
On peut dire qu'on va aussi survoler certains. On va surtout se concentrer sur une histoire. Il y en a plein. Ouais. Quoi.
Et puis c'est très très dans le ressenti, dans les émotions. Et parfois, je lisais un truc qui était intéressant, c'est qu'elle disait que les détails superflus, comme elle appelait, tels que les noms, les dates, les adresses, les trucs comme ça,
elle s'y lisait pas.
Elle s'en battait les couilles. Donc il y a des moments où elle te parle de l'émotion qu'elle ressent, mais qu'elle a pu ressentir à 50 ans ou à 15 ans, tu sais
pas.
Docteur
Manhattan.
Mais
en fait.
Je trouve que son écriture, c'est des virgules. En fait, chaque phrase, il y a au moins une ou deux virgules, et t'as l'impression qu'elle a mélangé les phrases. Elle a écrit son texte, elle s'est dit première phrase de chaque paragraphe va se mélanger maintenant, paf.
Mais ce qu'elle dit, les premiers mots, ça fait never gonna give you up.
The colony. Never gonna give you up.
Mais maréchal, nous voilà.
Ce qui est assez fou, c'est comme tu disais, mais c'est qu'on aime ou pas, il y a un truc de c'est mental, quoi. C'est-à-dire que t'es incapable de te faire le résumé, parce que elle te raconte d'abord, tiens, c'était à Saigon une journée, il m'est arrivé ci, et puis d'un coup, elle te raconte qu'elle a vu son fils ce matin, le moment où elle est en train d'écrire le bouquin, qui lui a rappelé qu'elle avait vu une photo dans les années 60, et puis paf, elle retourne à ce qui s'est passé à côté du Mékong. Enfin, c'est impossible de restructurer
c'est
ce
un
truc.
C'est un petit peu un Capharnaüm, et puis surtout
un maelstrom.
Un maelstrom d'émotions, finalement. Oui. C'est ça qui est très beau. Mais donc, on a quand même une très belle histoire d'amour, finalement, et voilà.
Et le mot est lâché.
Il faut le dire.
C'est bien.
Eh ben, parce que ça baisse de là, mon pote. Alors là.
Mekong my love.
C'est un peu ça. Mais voilà, donc une histoire d'amour, une histoire de cul, une histoire avec des enfants. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie.
Et le roman, si on peut l'appeler roman, débute en évoquant en fait
l'expérience. The experiment, elle utilise ce terme.
C'est vrai, elle parle de experiment. Donc en fait, le voyage dans la psyché de Marguerite débute en 1984, où elle nous évoque en fait son visage totalement détruit par des années de dépression, d'alcool. En fait, faut savoir qu'elle a été
une grande alcoolique.
Grande alcoolo, comme on dit.
Ça a été une grande alcoolique, et ça, on peut lui dire bravo, parce que bravo, Marguerite.
Parce que les alcoolos dans ton genre,
alors là,
on en connaît, mais
putain,
bravo.
Ouais, non, mais ça a conduit à des sacrées situations, genre. Plus tard dans sa vie, elle a fait des rechutes, mais des trucs, elle a passé genre 5 semaines à l'hôpital après une cuite, enfin des trucs.
Bah, c'est pour ça, elle a même été mise dans un coma artificiel, et c'est pendant son coma qu'il a été décidé que ce serait Jean-Jacques Hano qui ferait le film.
Ah ouais?
Je te jure, et c'est quand on se
Ils lui ont fait signer en lui prenant la main.
Ah. Et du coup, après avoir eu un petit peu son visage détruit entre ses 18 et ses 25 ans, on comprend que c'est là on va avoir le récit du début de sa vie avant justement d'avoir ce visage un petit peu détruit. détruit, elle va raconter les événements qu'elle a connus avant justement la destruction de ce visage quand elle était encore
jolie. Ça va commencer. Ouais, en fait, on comprend qu'elle était absolument sublime quand elle était gamine.
Ouais. Elle s'en cache pas. Hein.
Ah ouais, j'ai l'impression c'est pas qu'elle est belle, c'est plus qu'elle est pas aussi moche qu'après. Enfin, je l'ai plus lu comme ça, tu vois qu'elle.
Ce qu'elle nous raconte, c'est qu'en fait, elle a donc passé son enfance à côté de Saigon et que à ce moment-là, elle a tiré les regards de tous les messieurs
qui étaient
quand même un peu plus âgés qu'elle, voire même beaucoup plus, parce qu'en fait, elle a 14 ans, quoi.
C'est ça.
Oui, concrètement, et le bouquin d'ailleurs se situait principalement sur la période où elle a 15 ans et elle nous raconte notamment un moment précis de sa vie lorsqu'elle a 15 ans et demi sur un bac qui traverse le.
Pour l'instant, elle nous le raconte pas. Elle commence à dire qu'elle va en parler, mais que
je vais parler de cette chose
dans 800 pages.
Tu vois.
Non, elle vit alors dans une pension d'État à Saigon. Elle étudie au lycée français. Sa mère est institutrice là-bas.
C'est trop les colonies, quoi.
Ouais. Hein. Ils ont des domestiques. Et surtout, en fait, sa mère la prédestine à une grande carrière de mathématiques, alors qu'elle sait déjà une chose, Marguerite.
Elle veut écrire. C'est ça, elle veut écrire. Ah ouais. Elle soit agrégée de maths. Elle veut écrire.
Mais on comprend de toute façon que ce que sa mère veut, c'est pas forcément ce que Marguerite veut. Et leur relation avec sa mère, ça va être un des sujets de ce bouquin.
Ouais.
C'est quelque chose d'assez,
c'est un peu tendu parce que, alors, on sent quand même qu'elle a un peu d'amour et qu'elle comprend cette femme qui est donc en fait Marguerite Duras. Donc elle a perdu son père,
ses parents ont tous les deux été envoyés dans
les colonies,
ce qui à l'époque s'appelait le Cochinchine, ce que je continuerai d'appeler le Cochinchine, merde. Et son père a chopé une maladie, il en est mort assez vite, et donc sa mère est restée seule à élever elle et ses deux frères, je crois, son petit frère, et sa mère préférait son grand frère.
Ah oui, c'est un peu tendax avec le grand frère, non?
C'est Pierre, on apprend, alors il y a des pages, c'est sordide parce que tout au long du bouquin, on voit qu'elle n'a pas l'air de le kiffer. Et à un moment, il y a une page qui arrive, et là, elle dresse un portrait du grand frère. Genre, tu comprends qu'il y avait un problème.
Ah, mais
et il en prend vraiment pour son grade.
Parce qu'au début, elle commence, elle l'appelle l'assassin. Mais c'est tout ce qu'elle dit.
Voilà, et donc, elle l'appelle l'assassin.
Moi, je me dis, bâtard, il va tuer la main.
À un moment, elle te dit, bon, il a essayé de violer la bonne. Mais genre, bon.
Bon, c'est le temps des colonies.
Voilà, tu pourrais limite te dire,
il a pas violé la bonne, il y a marqué.
Il a tenté.
C'est pas la bonne.
Il a tenté, oui, c'est ça.
Non, mais faut voir comment elle était habillée. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup dans ce bouquin qu'il faut.
Mais c'est quand même, c'est assez horrible, surtout que voilà, comme tu dis, elle reste très vague, un peu vaporeuse autour de ça. Bon, parfois elle nous sort des horreurs où on est en mode genre oui, tu laisses ça comme ça.
Des horreurs et puis des fausses pistes un peu, parce que tu te dis ah putain, elle va nous parler de son frère à fond, en fait elle va complètement le survoler. À un moment elle dit j'étais quand j'ai vu Kennedy s'est fait tirer dessus, puis en fait elle en parle pas du tout. On aurait envie qu'elle creuse, tu vois.
La zone 51, j'y suis allé. Je retourne au Mékong.
Souvenez-vous quand j'avais 15 ans, cette passion que j'ai vécue avec un chinois. Mais on s'en branle du chinois.
Mais tu vois, par exemple, pour le petit frère, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle dit, mon petit frère est mort pendant l'occupation japonaise. Il est mort en martyr. Oh my god, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la guerre. Et en fait, non, tu comprends.
Le mort et le martyr.
Cinq pages plus loin.
Le martyr est sur la table. La table est dans le salon.
Cinq pages plus loin, t'apprends qu'en fait, il a eu une pneumonie. Il a eu le coronavirus avant tout le monde.
Exactement. Voilà. C'est peut-être le patient zéro qu'on cherche autant.
Bon, surtout Marguerite, du coup, sa mère veut qu'elle fasse des maths. Elle veut écrire et elle commence à. On disait qu'elle a un peu d'admiration, un peu de pitié pour sa mère, mais surtout, elle se dit que sa mère est jalouse d'elle. Parce qu'elle se dit qu'en fait, la mère. Faut savoir que maintenant, Marguerite Duras parle d'elle parfois à la première personne ou à la troisième.
C'est très perturbant, ça, tout le bouquin.
La fille.
Askip, c'est la mère d'Alain Delon. Enfin, Alain Delon a eu comme mère la Marguerite Duras. Alain Delon parle de lui à la troisième personne.
Oh là là.
On s'est cru dans la mort, là.
Hein. Très clairement.
Il a failli faire une manne de merde.
Elle est issue d'une famille pauvre. Elle suspecte sa mère de l'avoir laissé s'habiller ainsi pour qu'elle s'habille d'une manière un peu. On comprend qu'elle a un chapeau d'homme. Elle en parle avec fierté et qu'elle a des fringues un peu trop courtes pour elle. Donc, en gros, on comprend un peu que sa mère voudrait qu'elle se prostitue.
Bah, c'est ce qu'elle dit clairement. Elle dit ma mère me laisse m'habiller comme une demi-prostituée.
Une demi-prostituée, c'est pas pareil.
C'est comme les demi-baguettes.
Tu veux prendre une demi-pute, s'il vous plaît. Bah, c'est 60 centimes aussi. Oh putain.
Génial. Oh,
le loophole, tu vois. j'ai trop un truc. Demandez tout en demi. Enfin, un demi-cancer. Bon, c'est bon. Bah, écoutez, mais y a pas de problème.
Un demi-mour. Moi, il y a un épisode. Donc, on sait qu'elle a perdu son petit frère, etc. Il y a un épisode qui m'a vraiment fait rire dans le bouquin. On apprend donc qu'après sa famille est partie retourner en France. Puis que, après, en réalité, sa mère était repartie en Indochine. Mais lors de son passage en France, on apprend que sa mère a un château. Et moi, je trouve très drôle parce qu'il y a un passage où elle dit que c'est un château Louis XIV et que sa mère a acheté des poussins. coussins, acheter des couveuses. Et elle décrit une scène, elle décrit une scène voilà où ça sent la mort parce que ça pue en fait la nourriture des poussins, pestilentielle, c'est ça.
En fait, c'est con de les mettre à l'intérieur. Hein,
elle te dit, et moi ce qui me fait rire, c'est qu'elle dit qu'il y a 40 mètres carrés de poussins.
Oui.
Après, elle t'explique que ça fait 600 poussins, donc elle a fait une règle de 3.
Littéralement, la taille de mon appartement, 2 poussins.
Voilà.
Alors, moi, pour être tout à fait franc, je suis déjà entré dans une salle où il n'y a que des poussins sous couveuse, enfin, tu vois, en train d'être dans un truc de batterie, quoi.
Ouais.
Vous n'imaginez pas l'odeur que ça représente.
Et le bruit, ça pue. Ouais,
mais surtout, ça tweet.
Ça tweet un max.
Et le pire là-dedans.
Est-ce que c'était le QG d'En Marche?
Non, au milieu de ça, il y avait Sardoche qui était là. Je comprenais pas ce qu'il faisait ici. Comme il s'était fait ban du poulailler,
Non, mais quel enfer, quoi.
Non, mais du coup, en fait, elle commence à voilà, raconter que sa mère a un peu dilapidé sa fortune. Bon, on sent, mais c'est un truc parce qu'en fait, Marguerite Duras, elle fait un peu une. Comme le cinématique Marvel Cinematic Universe, elle commence des histoires qu'elle reprend dans d'autres bouquins. Donc, elle avait déjà raconté ça dans Un barrage contre le Pacifique, que bah, sa mère, en fait, fait que des choix de merde sur choix de merde.
Entre la concession, filer la thune au grand frère, enfin voilà, ouais, on est sur une cascade de conneries.
On apprendra ensuite que bah, Marguerite et sa mère, ça va pas être la méga entente toute leur vie.
Elles vont un petit peu se détester, l'une comme l'autre en fait, quoi. L'une parce qu'elle a ruiné un petit peu ses rêves, etc.
C'est toi la pute. Non, c'est toi, arrête.
Moi, je suis une demi-pute. Ouais, et puis, bah ouais, donc c'est un petit peu compliqué. Et donc, on sent très vite que la Marguerite Duras, elle a qu'une envie, c'est de s'émanciper et de s'émanciper également par son corps. Et elle va en avoir un petit peu l'occasion puisque elle va.
Enfin, revenir sur l'épisode du bac.
On revient, voilà, tu vois. C'est-à-dire que là, concrètement, on a un peu suivi le schéma du bouquin, c'est-à-dire qu'elle nous a parlé de ce putain de bac il y a 40 pages. Mm. Là, elle nous a parlé de je déteste ma mère, cette pute, tout fait. D'ailleurs, ce jour-là, j'étais sur les Mekong.
Mais et le truc, c'est qu'elle te fait aucune transition. C'est qu'elle te dit vraiment, ouais. Genre, ma mère qui a dilapidé sa fortune.
Il n'y a aucun chapitre.
Le Mekong,
c'est. Il n'y a aucun putain de chapitre.
Il n'y a aucune respiration. C'est vraiment 140 pages d'apnée où tu rentres dedans et tu la suis, quoi.
Faut voir qu'elle a écrit en apnée quand même aussi. Ça, c'est... Elle détient d'ailleurs encore aujourd'hui le record devant.
Bah, elle ne respire toujours pas à l'heure actuelle, figure-toi.
Bon, alors, elle revient alors sur cet épisode où elle raconte qu'elle est sur le bateau qui va traverser le Mekong. Sur ce bateau, elle explique que tous ses vêtements d'époque alors étaient forcément achetés d'occasion, que sa mère lui permettait ainsi de s'habiller de façon très excentrique, de se maquiller. On comprend qu'en fait, sa mère, parfois, elle la méprise, mais en même temps, elle lui laisse une énorme liberté. Mmh. On apprendra ensuite qu'avec la pension aussi, il y a un truc de... Ma fille fait ce qu'elle veut, c'est une petite blanche dans les colonies, quoi.
Oui, de toute façon, t'es un peu tranquillou à ce moment-là, il faut croire. Hein, c'est... Mm. Parce que.
Oui, c'est conscientisé, quoi.
Ouais, voilà, c'est un peu essentialisé, même, vois-tu. C'est,
Et ce qui est drôle, je trouve, c'est qu'elle écrit ça en 84, mais vraiment, elle parle comme à notre époque en disant je n'étais qu'une petite blanche favorisée face à tous ces corps étrangers.
Elle était très consciente, finalement, du privilège qu'elle avait à l'époque.
Exactement.
Je crois qu'elle aurait survécu.
Et elle se plaint quand même.
Connasse de blanc.
Et alors, elle commence à raconter qu'en fait, il y a une bagnole qui arrive à l'arrivée du bac.
Pas n'importe quoi.
Une limousine.
Une belle limousine, d'ailleurs.
Un camion de glace.
Et là, elle voit un homme élégant qui sort de la limousine. Et c'est là qu'on comprend qu'on arrive enfin dans le cœur de l'histoire.
Homme propose de la ramener, enfin joli. Il est pas très beau.
Il est élégant.
Il est élégant, c'est déjà pas mal. Il lui dit écoute, maintenant, ma cocotte, tu prends plus le bac avec moi. Ça va être limo et domac tous les soirs. Ça va être la classe. Il se présente, c'est un jeune chinois.
Ce qui dit pas juste ça comme ça. Oui. Excuse-moi avant de te dire bonjour, oui, c'est fini le métro. Tu vas venir en bagnole avec moi tous les matins.
Waouh. Mais qui êtes-vous?
Il se présente, mais on sait pas comment il s'appelle.
Ouais, il s'appelle du coup.
Le chinois de Cholène.
Cholène.
Le chinois. Et d'ailleurs, bah, on saura toujours pas comment il s'appelle.
Dominique, je m'appelle Dominique. On a été ensemble pendant 3 ans. Ouais. Je te souviens pas de mon nom.
Ah, le chinois. D'ailleurs, elle continue parce qu'en 1984, quand elle l'aurait écrit, elle appelle ça l'amant de Chine du Nord.
Ouais.
C'est plus le chinois, c'est le chinois de Chine du Nord. C'est un peu.
C'est comme ça qu'il est passé de 140 à 200 pages. Elle a ajouté 3 mots en fait.
Spoiler alert, à la fin, il va la rappeler genre quand même, beaucoup plus tard quand ils seront plus vieux. Et elle met quand même pas son nom. T'sais. Elle a pas pensé. Comment tu t'appelais déjà? Parce que moi, c'est chinois dans ma tête. Dans
mon rédacteur. Oh, Marguerite Duras. Ah, chinois.
Ah oui, peut-être que c'est vraiment son nom.
Bon bref, il commence à se présenter, il dit que lui, il a étudié à Paris, c'est pour ça qu'il parle très bien français, qu'il est le fils d'un chinois très riche.
Il a fait fortune dans les bacs. Donc dans les bacs, alors pour vous resituer, c'est des petits bateaux qui servaient à transporter les gens. On appelait ça des bacs parce que ça avait un fond plat. Oh. Donc ça permettait de naviguer sur les rivières. Comme les péniches.
Comme les péniches, mais avec, change à le champ alsacien.
Alors Margou,
vas-y.
Margou, pas la connaître. Hein. Et bah Margou, alors Margou, elle commence à vous sentir tout de suite qu'elle est en position de force.
Ouais.
Parce qu'en fait, elle comprend carrément que le mec est juste
le type la kiffe
dingue d'elle.
Il l'adore.
Alors il est redingue.
Comme Danny Boone.
Même physiquement, elle le décrit mais d'une manière où tu dis mais comment est-ce qu'elle a pu désirer ce mec? Et d'ailleurs, elle dit qu'au début, elle est pas très attirée par.
Non, elle est pas très attirée. Mais après, quand ils vont avoir enfin leur moment d'intimité, elle racontera comment il est dur pour elle et que ça lui plaît.
Ah oui.
Justement, donc. Il l'emmène dans un compartiment meublé, en fait, qui, on comprend, sont le fruit de la richesse de son père, qui a aussi investi dans tous ces compartiments meublés qu'il loue aux gens les plus pauvres.
En fait, très clairement, c'est un carré dans le métro. Mm. Donc, il l'agenonge là et il lui fait l'amour devant tout le monde. C'est extrêmement gênant.
Tu vois, ligne 6 ou ligne 12 ?
Uniquement la 12. C'est là où il y a le plus de.
Parce que la 6, c'est
les gens qui font l'amour.
Et donc t'as vendu la mèche, Cyril. Ils font la chose.
Ouais, ils font la chose et on sent que c'est quand même un des moments qui est un des moments forts du bouquin. Justement, elle t'explique que voilà, c'est une étape. Alors on n'est pas dans le truc genre maintenant je suis une femme machin, mais on sent que elle passe un stade quand même. Mmh. Marguerite dans le bouquin, voilà.
Mais c'est marrant parce qu'elle s'oblige à maintenir une distance parce que tu sens que malgré ça, enfin évidemment ça lui plaît. Elle dit qu'elle est un peu surprise partout par la
le
douceur.
Sang,
ouais, déjà par le sang. Elle savait pas qu'elle saignerait. Elle sait pas à quoi ressemble un homme. Elle savait pas que ce serait comme ci, comme ça. Et pourtant, malgré toute la surprise et le plaisir qu'elle a, elle commence à dire, il faut que je mette une distance parce que sinon, en fait, il va croire que moi aussi, je suis fou de lui.
Alors
et
parce que elle...
moi, je veux le dominer, en fait.
Et elle nous dit, dès le début, je sais que ça ne durera pas. Je sais que, genre, voilà, bon, où que ça nous mènera nulle part.
Mais d'ailleurs, elle le domine, elle fait une petite queue de bras.
Oui. Duras.
C'est fait non, il tape par terre trois fois, c'est game over.
Chinois.
Crash le monsieur fait. Sinon c'était vraiment bien, merci.
Non, mais il y a un truc
elle cherche elle le cherche à le dominer.
Ouais, et moi il y a un truc que j'aime bien, c'est que le mec lui dit au début il lui fait en fait une sorte de bulletin prévisionnel de toute sa vie amoureuse et il lui dit ouais, tu vas tromper tous les hommes de la vie avec ceux avec qui tu seras jamais heureuse.
Et j'ai fait la plus grave, hein. Il dit qu'il a fait une énorme erreur en la rencontrant en allant
lui
parler quoi.
Et moi j'adore parce qu'elle lui répond qu'elle est trop contente et qu'en mode genre et en effet, il a raison, j'ai trompé tous les hommes avec lesquels j'ai été.
Même pendant la guerre. Même pas pour avoir du pain, juste pour le plaisir.
J'étais le boulanger.
J'étais l'amant.
Donc lui, il commence aussi à raconter sa vie. Elle lui raconte la sienne. Elle reprend alors son voyage un peu mystérieux et vaporeux dans les méandres de sa mémoire.
En fait, les moments où elle s'est méandre, c'est juste pour clasher son frère et sa mère, quoi.
Ah oui, c'est sûr.
En fait, on parle de méandre, mais depuis tout à l'heure, c'est juste qu'elle clash son frère quand elle peut, quoi.
Elle dit, ouais, elle clash son frère, elle dit que sa mère est folle et qu'elle ne se comprenne pas.
C'est comme tu fais un footing et dès que tu fais une pause tu fais juste ma mère tu pute allez je reprends.
Mais moi il y a un moment à cet endroit là alors moi j'ai vraiment besoin de votre avis, je n'ai pas compris pourquoi elle nous parle de deux personnes.
Ah oui,
Marie-Claude Carpenter,
ouais.
Et Betty Fernandez,
qui sont des gens qu'elle va connaître
qui
dans
sont
la résistance
des gens qu'elle va connaître, ouais. En fait voilà, dans la résistance puis à Paris, enfin après dans son retour en France.
Betty qui sera tondue à la libération.
Demi-tondue. Et tu seras tondue, une demi-tonte. Ah bien joué.
Elle a juste sucé.
Et là, le problème, c'est que c'est terrible parce qu'on comprend juste pas d'où ça sort. Et c'est surtout qu'elle nous explique que Marie-Claude Carpenter, cette anecdote fantastique, organise des réceptions chez elle. Et puis, au milieu de la soirée, dit écoutez, je suis fatiguée, vous éteindrez quand vous partirez. Et là, elle laisse les invités chez elle et elle s'en va.
C'est très très bon ça.
Et on comprend. Moi, j'ai vraiment pas compris le lien. Et c'est là que tu vois qu'elle a juste divagué. Et ça, c'était un soir quand Marguerite, elle a écrit, elle s'est pas relue. Tu vois, genre...
Ah merde, c'est l'autre bouquin.
Elle s'est trompée de page, a envoyé à son éditeur et puis voilà.
Tu veux pas relire avant? Non, franchement, moi c'est un jet, puis c'est bon.
Elle relit rapidement, ma mère est une salope. Oui,
bon,
c'est ça.
Ouais,
c'est...
Bah, c'est bon, ouais.
Et ça s'appelle comment?
C'est quoi?
La table. Tu sais que t'as eu le Goncourt? Ah ouais, cool. Ouais,
cool. Ça te dirait de passer sur mon autre projet, le
mur?
C'est quoi ça? Le camion, ouais, c'est pas mal, ouais.
Bon, elle commence à raconter sa vie au mec. Le mec est totalement fou et elle lui dit, bah tiens, j'aimerais que
tu
rencontres ma mère. Parce qu'il l'emmène dîner au restaurant d'abord, pardon. Excuse-moi, il l'emmène dîner d'abord au restaurant. À nouveau, le mec lui fait toute sa vie. Genre, j'aimerais trop qu'on passe notre vie ensemble, tous les deux, je suis fou de toi. Il lui dit, ouais, ok,
et
bah.
Tu comprends, avec une explication de seulement 45 minutes, je peux te permettre de devenir rentier avec.
Tu ne peux pas passer l'annonce.
Tu peux pas passer la putain d'annonce, mon gars.
T'es au restaurant, t'es bloqué avec lui. Merde.
Non, vous elle en avez marre d'être salarié.
Ce seront peut-être les violonistes du futur, hein, dans le métro. T'imagines, ouais, l'accordéoniste. Vous voulez devenir entier?
Accordez-moi 2 minutes de votre temps pour devenir des vrais winners.
Madame, monsieur, bonsoir. Vous ne méritez pas de m'écouter. Oh, bordel.
Oh, mais non, j'ai rien.
J'étais hier à Singapour, demain à San Francisco.
Ouais, c'est ça. Ouais, qu'est-ce que je
veux. Et dans 20 minutes, au métro glaciaire. Bref, elle commence à lui dire, ok, bah, faut que je te présente à ma famille. Et ça lui fout un peu un énorme coup de flip, ça.
Ah, il a très peur.
Ouais. Mais en fait, tout le long du livre, le mec est décrit comme étant, excusez-moi du terme, une lavette. Voilà.
J'ose dire. Non, moi je trouve qu'il est à 7 ans. Il est fou amoureux d'elle.
Oui, mais elle le décrit, lui, comme ça. Tu vois, c'est quand même assez dur pour.
Bah, elle le décrit avec un point de vue, effectivement, on sent qu'elle le domine et elle est parfois assez dure avec lui. Mais bon. Après, c'est vrai qu'il est décrit comme un homme qui pleure, mais tous les hommes pleurent, tu sais.
C'est vrai.
Ça, c'est vrai.
Bon, ça le terrifie. Mais bon, il décide quand même d'inviter toute la petite Smala, à nouveau dans, je suis même pas sûr, je crois que c'est peut-être le même restaurant, à nouveau. Mmh. Il l'invite dans un grand restaurant. Sauf que là, c'est très très gênant, Cyril. Ils vont pas super bien se comporter, la Mifa Duras.
En gros, ce qui se passe, c'est que du coup, le chinois de Cholène invite tout le monde. Il dit c'est pour moi. Et la famille de Marguerite est là. Donc, ses deux frères, sa mère, etc.
Jackpot.
Et ils mangent en silence. C'est-à-dire que c'est pour lui, on se fait plaisir.
Genre, les frères. On est pas obligé de lui parler.
Les frères lui adressent pas la parole.
T'aurais dû dire après que c'était pour toi, mon gars, parce que.
Les frères lui adressent pas la parole.
Il est avec nous, le serveur, là.
Putain. Quelle horreur.
Mais non, c'est mon amant. Mais t'as 14 ans.
Mais c'est vrai.
Ton amant est le serveur.
C'est vrai qu'on. Mais on revient pas sur ce point. Alors effectivement, la mère de Marguerite à un moment bat Marguerite parce qu'elle lui dit « Je sais que tu couches avec lui, c'est pas bien, t'es une pute !»« Non, c'est une demi-pute !» Enfin, en tout cas, voilà, elle s'embrouille. Mais c'est après le dîner, justement. Et ils ont trouvé ça totalement normal. Et c'est là qu'on voit qu'en réalité, de ce point de vue, dans ce cas, alors, c'est les frères qui juste ont pas réagi, la famille qui s'est pas demandé dans ce cas qu'est-ce qui se passait.
C'est vrai qu'à aucun moment, ils se disent, c'est son amant.
Bon, écoute, tu nous invites, alors c'est parti, ça fait plaisir. La mère pose 2-3 questions à table.
Ils le méprisent totalement.
Ah, ils le méprisent, ils n'ont rien à faire.
C'est affreux. Et là, arrive alors le moment, c'est que les frères, ils veulent aller en Tebois. Et du coup, à nouveau, c'est le chinois de Solène qui va payer les coûts, quoi.
Ils vont à la source.
C'est
Ils prennent du cognac, c'est ça.
Ouais.
Et alors ils te disent que c'est les deux frères boivent cul sec leur cognac. Et puis après t'as la mère Marguerite et le chinois qui filent leur verre pendant que le chinois va racheter des verres.
C'est horrible.
Et puis c'est parti et puis on paie la tournée pour tout le monde.
C'est là qu'on voit qu'il y a un petit problème avec l'alcool hein, dans cette famille de toute façon. C'est
ouais, il y a des antécédents. Hein.
Moi d'ailleurs quand j'écris Céline, je suis en train de me boire un petit bourbon.
faut que je pense à le rayer ça parce que sinon ça va finir dans le bouquin encore une fois.
Tiens, je vais écrire un bouquin, je vais l'appeler le bourbon. Bref, Marguerite, donc elle revient à nouveau un peu sur la relation avec maman, elle a des grosses mommy issues. J'aime bien, elle raconte à moi une anecdote qui me fait bien rire sur comment un jour sa mère a décidé de laver toute la maison.
Oui, alors oui.
Je trouve ça assez drôle parce qu'en fait, elle raconte qu'ils ont une maison sur pilotis, et donc c'est des moments où tu pouvais vraiment foutre un gros coup de seau d'eau.
Balèque quoi.
Mais en gros, sa mère parfois avait des lubies qui la prenaient comme ça et face auxquelles, toute la famille devait un peu.
Bah, tu t'explies quoi, c'est pas grave de toute façon.
Et donc quand la mère dit on lave toute la maison au seau d'eau, on lave toute la maison au seau d'eau.
Bah, toutes les semaines, elle me cassait les couilles, elle me dit faut que tu arranges ta chambre. Elle avait des lubies comme ça. Je m'y suis jamais plié. Voilà, jamais.
Faut que tu t'essuies les fesses après le caca.
Jamais, je dis. Et l'amant de Marguerite, lui, par contre, il commence à être un petit peu flippé parce qu'il se dit, attends, j'ai vu la famille,
Des zinzins, ils sont marteaux, ça.
Ils ont fait l'addition. Oui, nous ne pouvons pas être ensemble, en fait, légalement.
Vois-tu, dans la loi, il y a marqué que avant 18 ans, ça n'est pas possible. Or!
Tu as 4. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on sait qu'elle a 14 ans et lui, on apprend qu'il a 15 ans de plus qu'elle.
C'est ça.
Donc il a
29.
Donc 29 ans. Donc, c'est de la pédophilie.
Voilà.
C'est posé.
Oui, effectivement, effectivement. Oui, le calcul. Bon.
J'ai fait le calcul. Il n'a pas le droit.
Il n'a pas le droit, c'est pas bien. Et là, Marguerite a quand même la plus belle des réponses. C'est qu'elle lui dit en substance, bon, t'inquiète pas de maman. De toute façon, elle est trop pauvre pour te faire un procès. Et puis tous les procès qu'elle a déjà fait, elle les a perdus.
Alors qu'on apprend donc la relation entre le chinois de Cholen et Marguerite se passe. Il y a un peu des hauts et des bas. On fait enfin la connaissance d'un nouveau personnage, Hélène Lagonel. Donc, on a entendu parler d'elle au début, on a vu son nom, mais on sait pas qui c'est. On
Hélène Labonasse.
Hélène Lagonel, donc, qui est, pour la décrire, la seule camarade de pension blanche qu'a Marguerite. Donc,
c'est ça. Sont les et en fait, elles savent qu'elles sont les deux petites privilégiées.
Exactement. C'est ce que nous dit Marguerite, sans embâge. On est blanc, on est blanche, on est privilégié. Et la pension sait qu'on est blanche. Et pour la réputation de l'établissement, ça fait bien.
C'est ça. Ils pourront rien contre nous.
Exactement.
Et alors, moi, ce que je trouve encore pire, c'est que elle méprise totalement, en fait, finalement, sa pote. Parce qu'elle nous dit que, bon, elle est un peu con-con. Qu'elle aura jamais les études que elle va s'apprête à faire.
Qu'elle est juste pour être mariée, peu,
que ah ouais, ouais.
Ses parents veulent simplement la marier et que. Mais j'arrive pas à savoir si elle fait ça parce que genre ah maintenant j'ai couché avec un garçon, tu comprends, ouais. je suis adulte. Mais ou en... si c'est juste une connasse.
Ben en vrai il y a sûrement un peu de vrai dans ce que tu dis parce que il y a tu sais quand back to collège lycée quand t'as le premier mec qui a fait l'amour de ta bande
avec Marguerite Duras. Qui...
mais t'es dégueu, la bande depuis 10 ans, c'est affreux mec.
C'est qui le bonhomme?
C'est plus personne lui
parle. C'est Lucas.
Je me suis laissé enfermer dans le cimetière de Montparnasse.
J'ai liqué tous les cadavres.
J'ai pris de la MD. Ah ouais, moi aussi.
Quelle horreur. Il y a juste le temps de dire ça genre, dans la côte. T'as toujours le kiff à rien, puis là t'as les flics qui les marquent.
Ouais, je l'ai là. Ouais, je...
dans le calme, rien ouais, à foutre. Ouais, j'ai dit, still had sex.
still counts. Face au commissaire, c'est vous qui avez niqué Marguerite Duras.
Eh ouais, ma gueule.
Putain, franchement, bien joué. Donc elle est plutôt bien gaulée, elle est un peu coconne. Et Marguerite va lui venir une idée. Je dis, bah écoute, il y a un trou là, il y a une biche là. Est-ce que.
Et si on veut rencontrer les deux?
Ouais, c'est ça. I got a pen, I've got an apple. Ah, pineapple.
La vie d'Hélène, chapitre 1 et 2, parce qu'elle se dit au début, tiens, en fait, ça devient un peu chaud là, le bouquin, parce qu'elle commence à nous expliquer qu'elle brûle de désir pour Hélène, qu'elle veut absolument se jeter sur elle pour la filer au chinois.
Exactement. Il y a une démarche très prédatrice en fait.
Ouais. Mais c'est là qu'on est un peu dans le roman d'apprentissage, tu vois. C'est
du cul.
Oui, alors en général on dit juste roman d'apprentissage.
Du cul.
Oui, alors bon, d'accord. C'est la définition consacrée par l'Académie française.
Mais bon, finalement ça va pas se faire.
Non.
Ça va pas se faire. Et en revanche, le chinois va lui offrir un diamant qui fait que d'un coup tout le monde va arrêter de la flex. Parce qu'ils sont en mode genre.
C'est un méga diam, ça.
Ouais.
Waouh.
Il claque celui-là.
Ouais. Ça c'est pas de la merde. Et ça va. Et parallèlement à ce gros diamant flexator 3000 là, elle va nous remettre une couche sur. Voilà, c'est là encore que les histoires se croisent. Elle en met une couche sur le grand frère qu'elle déteste. Bah alors là pour le coup, elle y met en détail. Hein.
Ouais.
Là, ça déconne pas.
Ça, c'est la fiche Wikipédia.
Ouais, là, c'est.
Tu sens que.
Mort dans une chambre de bonne, mon frère était un enculé.
Elle t'explique. Il a eu son premier travail à 50 ans.
C'est ça. Il a crevé la gueule ouverte comme une merde.
Comme quoi, on peut vivre toute sa vie sans traverser la route. Mais effectivement, il a tout volé. L'héritage familial. Il l'a même volé chez elle. Elle t'explique que.
Pendant la douleur.
Accusé de collaboration, le type, elle l'héberge, et un jour, il lui vole, en fait, quand elle est pas là, il fouille dans la maison, il vole 50 000 francs, il se barre. Et il revient après, et elle lui dit, j'en ai même pas parlé, moi, je m'en fous, j'ai honte pour... Il avait honte.
Ouais, je peux pas les causer.
Voilà, moi, je parle pas de ça, il crève comme une merde.
Lui, il avait la honte, moi, j'avais la douleur.
Non, ce que je trouve encore pire, c'est qu'après...
Je fais une blague littère, mon enculé.
Elle commence à raconter que, en fait, son frère, selon le testament, en plus, c'était favorisé, mais il se retrouve enterré avec la mère et elle a aucune idée d'où. C'est la première fois que je trouve qu'elle admet le fait qu'elle a pas le souvenir. Elle dit, c'est quelque part dans l'Oise, je crois, ou de près de la Loire, elle dit un truc comme ça.
Ce qui est quand même un peu, enfin, l'alcool fait des ravages, mais au point d'oublier où tu as enterré ta mère et ton frère, c'est quand même ce que j'ai fait déjà hier, j'enterrais ma mère.
Bon, un matin, la limousine alors revient chercher Marguerite, mais cette fois-ci...
Il n'y a pas le chinois de Cholen.
Ah non. Putain, enfin. Ah bah c'est parfait.
À moi.
Oh ouais, parce que moi je me disais que pour...
Projet à l'aéroport, vite, allons-y.
S'il faut sucer un chinois à chaque fois que je vais entrer dans une limousine, on n'est pas sorti de l'auberge. Ah bah c'est bien mieux.
Le chauffeur lui apprend alors qu'en fait son chinois s'est pris une rouste par son père et qu'il épousera une autre jeune chinoise. La décision est radicale, violente, mais Marguerite avoue avec en fait surprise qu'elle est plutôt d'accord avec le daron en disant ouais bah en fait toi et moi, c'était pas fait pour durer. Voilà, t'as été mon apprentissage. Maintenant, casse-toi, quoi.
Oui, c'est plutôt cool comme casse-toi d'ailleurs.
Oui. Mais c'est quand même assez.
C'est un aliment, par contre.
On comprend alors que cette aventure semble finalement avoir totalement coupé et détaché Marguerite du reste de la colonie. Elle se sent complètement exclue. Enfin, même par rapport à sa mère, c'est même plus sa mère, quoi. Elle est en mode genre, je vis avec cette femme, mais c'est rien.
Elle est plus inscrite dans la colonie parce qu'elle a déjà manqué l'atelier ping-pong.
Exactement.
Les
moniteurs la comptent plus quand ils font l'appel. Marguerite, qui est Marguerite?
Non, MD, je vois pas du tout. MDMA! Et du coup, non seulement elle est coupée de la colonie, mais on comprend que voilà, t'as eu un passage à l'âge adulte, un passage après le sexe, etc. Elle est même d'ailleurs assez surprise par le détachement que sa mère et elle ont aujourd'hui après cette aventure. Et finalement, l'intimité qu'elle partage, ça se résume plus qu'aux photographies dont Marguerite Duras nous parlait. C'est-à-dire des photos où tout le monde a l'air de se faire chier, sauf sa mère. Mm. Et c'est les seuls souvenirs qu'elle va garder avec elle. En fait, on se rend compte peu à peu, Marguerite se rend compte que l'amant s'est fait à l'idée que on pourrait pas l'épouser. Donc, c'est une histoire qui meurt doucement, quoi, concrètement. Mm. Et en même temps, Marguerite, elle se dit, je vais rentrer en France, en fait.
Ouais, ils essaient de se revoir un petit
peu. Surtout, ils essayent de faire sauter le couvercle une dernière fois.
Ouais.
Et ils y arrivent pas.
Ils essaient, c'est ça.
Alors, ils y arrivent pas parce qu'il arrive plus à être au garde à vous.
Bah non. Ça l'a un peu tout coupé, tous ses moyens, quoi.
Oui, et c'est marrant parce qu'elle était surprise dès les premières nuits, en fait, de sa raideur. Et là, elle est surprise que... Oh bah là, il y a un petit problème, mon chou. Il y a un petit problème. Et en fait, une fois qu'elle sera partie, c'est des problèmes qui, selon elle, il a eu toute sa vie. Il a mis beaucoup de temps avant de retrouver sa raideur avec sa nouvelle femme.
Et bam, balle perdue.
Bref, elle quitte alors l'Indochine sur un énorme paquebot, avec son frère, d'ailleurs.
Avec la famille, parce que le frère n'est pas encore mort à l'époque.
Non.
Il meurt après.
Il retourne
en Indochine, c'est un peu compliqué.
Non mais... On va le prendre avec nous parce qu'il il meurt pas tout de suite.
Allez, tiens-toi droit.
Voilà, dans pas longtemps, mais pas tout de suite.
Et on apprend qu'au cours de la traversée, son jeune frère commence à avoir une relation avec une femme mariée. Marié à un homme alcoolique qui se rend pas forcément compte justement de ce qui se passe il a une relation avec cette femme et moi je trouve que c'est très drôle parce que en une petite page, en un petit paragraphe, Marguerite Duras arrive à nous faire comprendre que finalement le personnage principal ressent la relation de son frère comme les membres de sa famille vivaient sa relation à elle, c'est-à-dire la mère est jalouse, elle est heureuse mais en soi voilà elle est un peu peinée et
le frère a saigné pour la première fois aussi il arrive avec un gros diable.
Et des années plus tard, alors on se retrouve à plus ou moins à notre époque, dans les années 70.
Ouais, c'est
Paris
ça.
2020. Marguerite Duras est désormais animée.
Duras.
Alors pour le coup, c'est vraiment un lapsus, j'ai pas fait exprès.
Bref, Marguerite reçoit un coup de téléphone et qui c'est au téléphone?
Le chinois de Charlène.
Oui, non, mais j'ai rien commandé ce soir. Merci. Le mec, ça fait 20 ans qu'il prépare le coup de fil.
C'est 20 ans qu'il a mis toutes ses économies de côté. C'est bon.
Le jour où je t'appelle en PCV.
Le jour où je redébarque en France, je vais la voir. On se tombe dans les bras et c'est l'amour de ma vie. Allô, Marguerite?
Ouais, non, merci.
Le chinois?
Non, c'est pour la côté.
Non, j'ai rien à voir, merci. J'ai pas d'argent, merci.
Mais ce qui est terrible, c'est quand on suggère vraiment un truc caricatural comme ça.
Oui, parce qu'on comprend en fait que lui est toujours fou amoureux d'elle, alors qu'elle est toujours aussi peu intéressée par lui.
Ok,
Et on a rien à foutre. Et tu sais combien d'Allemands j'ai niqué depuis toi? Voilà.
Alors, bon. J'ai vu ton bouquin, tu as oublié mon prénom? pas du tout. dis-le moi alors. Je vais raccrocher.
ça m'a fait plaisir de te parler. Il vaut mieux qu'on arrête là.
N'est-ce pas, Paul?
Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one, you have been the one for me. Goodbye, my lover, goodbye, my friend.
Et c'était l'amant de Marguerite Duras.
Tu peux inverser finalement, c'était l'histoire de toute une vie pour un chinois qui finalement a été téjard par une meuf de 15 ans. C'est un titre un peu long, mais ça résume bien ce qui se passe concrètement. C'est quand même une histoire un peu violente.
Bon, allez, vas-y, donne-nous ton avis,
Moi je trouve que c'est affreux, ce qui arrive à ce pauvre monsieur parce que finalement il l'aime d'un amour fou, d'un bel amour même. Et en fait, elle, du haut de ses 15 ans, elle est pleine de certitude que non, il n'y aura pas de lendemain entre nous. Enfin, elle est très désabusée dès le début, quoi. Est-ce qu'elle a déjà été heureuse?
Un peu abusée.
Oui, bon, c'est vrai qu'à 15 ans, effectivement, la question peut se poser.
Non, mais c'est vrai qu'elle elle regarde ça en même temps avec parfois tendresse, mais énormément de Marguerite Durasme.
Ouais, c'est-à-dire beaucoup de comment on dit, de, elle fait la moue tout le temps. Ouais. Tu vois, tu sens qu'elle écrit en faisant la moue, genre.
J'ai été jeune un jour. Jeune, j'ai été. La fille a été jeune.
Plus maintenant.
Et toi, Cyril?
Moi, alors, je vais être tout à fait honnête, c'était la première fois que j'ai lisé une œuvre de Marguerite Duras. Je suis pas fan de sa manière d'écrire. J'avoue,
je suis d'accord, c'est assez
enfin c'est assez déconcertant quoi, hein. Enfin, c'était, je m'y attendais pas. Bon, après peut-être que je vais quand même en relire, même si je sais qu'on en avait parlé au lycée, mais bon, à l'époque j'étais pas très assidu, donc j'avais pas lu les bouquins qu'on devait lire. Mais moi j'ai quand même trouvé l'histoire marrante. Je trouve que c'est marrant, elle mélange ses œuvres et au final voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Barrage contre le Pacifique, où on voit qu'il y a finalement les histoires se croisent vraiment avec cette œuvre-là, avec l'amant. Donc c'était une découverte.
Pas confondre avec Barrage contre le FN.
Ouais.
Ah non, ça c'est ouais. Différent.
C'est un autre bouquin.
Et toi Gaspard, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Il est plus réédité bizarrement.
Non, moi un peu comme vous, c'est que je trouve que c'est assez surprenant. Je sais pas si j'ai pris un grand plaisir. Après il faut se dire que ça se lit quand même en une soirée quoi, c'est
ouais,
assez
ouais,
rapide.
C'est rapide ouais.
Mais je trouve que dans la forme, il y a un truc un vrai travail. Enfin une vraie Non, franchement, je sais pas bien joué.
Ouais, pas mal.
18 sur 20. Ouais. Non non, mais il y a un truc de recherche et de tu sais enfin tu rentres dans une sorte de truc mental assez hypnotisant. Je sais pas si t'as envie de te faire l'intégralité de son œuvre après ça.
C'est ça. Mais en lire un ou deux, je pense que c'est super agréable parce que ça change, c'est vraiment différent.
Après, et puis surtout, ça, tu dois avoir, comme on disait, enfin, qu'on n'arrête pas de le lire, c'est que t'as constamment des renvois à d'autres passages de sa vie à elle. Donc je pense qu'une fois que tu connais tout, une fois que t'as lu tout Marguerite Duras, t'as une bonne idée de qui est vraiment cette femme et de tout ce qu'elle a fait, de tout ce qui lui est passé par la tête.
Alors,
et de tout ce qui lui sont passés sur le corps aussi, du coup.
Il faut beaucoup boire pour avoir une idée de quoi ressembler sa vie.
Mais justement, après, c'est ça. En fait, j'en parlais avec un ami avant la préparation du truc et il me disait, moi, l'amant, j'ai vraiment le livre où je me dis, j'aurais dû le lire en ayant bu une bière avant. J'ai besoin, pas forcément de désinhiber, mais c'est pas un livre qui se lit facilement comme un roman habituel. C'est un truc qui se lit presque à l'oral finalement. Un truc qu'il faudrait le lire, voilà, à haute voix.
Mais
c'est, parce que c'est une écriture parlée finalement.
Ouais,
donc,
elle répète des mots. Elle bute sur des phrases.
Je suis tombé sur une petite pastille vidéo disponible sur la page YouTube de Lina où elle parle avec Bernard Pivot et il lui demande justement comment elle fait ce style-là. Alors je sais pas.
En faisant des apostrophes.
À mon avis, c'est une. Bon, là, bien joué. À mon avis, c'est une réponse un peu d'écrivain et tout, mais elle commence à dire qu'en fait, elle y fait pas du tout attention. Genre, elle écrit vraiment comme ça lui passe et après, en fait, ça donne son style. Bon, j'ai du mal à me dire que elle repasse pas sur ce qu'elle a écrit, mais en vrai, c'est assez dingue. En fait, c'est comme tu dis, c'est les pensées, quoi.
Ouais.
Mais c'est pour ça que tu peux passer d'un truc à l'autre. Une fois que t'es rentré dans le flow, bah, t'es pas perdu. Nous, là, quand on l'a retranscrit, c'est hyper fouillis, hyper bizarre, mais
ouais,
en vrai.
C'est ça.
T'as une mécanique qui se met en place pendant les 10 premières pages, t'as du mal, et puis après, bah, bam, 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 et ça s'arrête plus, et tu vois très bien où elle va en venir, quoi.
Mais c'est pour ça, peut-être qu'après le second bouquin, à partir du moment où les histoires s'entrecroisent, c'est peut-être d'autant plus simple, d'autant plus agréable, quoi.
Mmh. Ouais. Bah, bon. C'est vrai que c'est plus sympa quand t'as toute l'équipe qui est là. Et que t'as en même temps contre Ultron, c'est
bah
vraiment.
C'est ça,
vraiment
et puis il t'explique vraiment d'où vient la planète des Sith sur laquelle Palpatine.
Mais là du coup, on est sur quelle.
Sinon, on comprend pas.
Bah non. Bon alors, est-ce qu'on peut faire un petit dernier tour de recommandations, Cyril? T'as une petite reco peut-être pour nous dans l'ère Marguerite Duras.
J'ai deux petites recos. C'est l'histoire me fait penser à deux choses. Déjà, alors pardon pour ma prononciation. La lettre à Elga de Bergsvein Birgitsson.
Ah non, tu l'as pas bien dit.
Tu peux le redire en sortant la bite que tu suces là de ta bouche.
Bergsvein Birgitsson,
tu vois quand tu veux,
et qui est un auteur islandais. En fait, ça raconte l'histoire, voilà, d'une. C'est le roman est une longue lettre d'un Islandais qui a 90 ans et qui en fait.
Oh, putain, mais l'horreur.
Et qui va juste parler.
Ma vie a été parfaite et chiante.
Non, mais justement, c'est une lettre qu'il envoie à une femme avec qui il a eu une relation d'amour des décennies auparavant. Et en fait, ça parle de leur relation et des regrets qu'il a pu avoir. Donc voilà, c'est l'idée que. De voir une relation avant. Et moi, le second truc, c'est L'amour au temps du choléra, de Gabriel Garcia Marquez, donc dans un autre style, rien à voir absolument. Mais c'est magnifique. Voilà l'idée de voilà de parler de cette jeunesse qui va découvrir, qui découvre l'amour et de nouveau.
Et le
dans,
cul.
Dans L'amour au temps du choléra, il y a l'amour, le sexe et la différence d'âge aussi. Donc
voilà. Là, on retrouve des trucs communs, effectivement. Et ben bah, moi, je devance ta demande, Gaspard.
Oh. Ouais. Et je danse ta réponse.
Ah bah écoute, ah. La semaine prochaine. tu parles de Gabriel Garcia Marquez. Déjà, je vous recommander d'aller réécouter notre épisode dans lequel tu avais fait ta première apparition, si je me trompe.
Il me semble, ouais.
Ouais. qu'on parlait.
Chronique d'une mort annoncée.
Chronique d'une mort annoncée de très, Gabriel très Garcia Marquez. D'ailleurs, on vous recommandait à cette époque tout Gabriel Garcia Marquez.
Et qui était toujours aussi explosé aussi dans sa narration.
Ouais, ouais. Effectivement.
Oui, il faisait des pages entières.
Ouais. Mais très, c'est vrai que ça tu peux retrouver des choses communes. Moi, ça m'a fait penser, Marguerite Duras, ça m'a fait penser à André Malraux, La condition humaine. Oui, moi aussi, je suis un max. Mais non, parce que déjà, ça
on va peut-être s'abonner à Télérama pour le podcast, ça va être plus simple.
Est-ce qu'on parlerait pas de la gauche, mais de la grande gauche, de celle de François Mitterrand, quoi.
La gauche, état des lieux.
état des lieux. La gauche en 2020, état des lieux. Non, mais déjà le simple fait que ça se passe à peu près ça se passe également en Asie. Donc
chez les nazis.
Ah,
mais oui, tu te trompes.
Non, mais du coup, ça se passe à peu près, ça se passe en Asie également. C'est aussi des gens qui ont connu les colonies, donc ils ont. Je trouve qu'il y a une forme de mélancolie qu'ils ont, hein, le grand temps des colonies. Et puis même les histoires qu'ils racontent, la manière dont ils racontaient, moi, ça m'a fait un petit peu penser à ça. Et pour le coup, j'avais beaucoup aimé La condition humaine. Je vous le recommande chaudement. Gaspard ?
Moi aussi, j'ai deux recos rapidement n'ont rien à voir ensemble, qui sont deux films. Parce qu'en fait, ça m'a fait penser à ça. C'est Il était une fois en Amérique, de Sergio Leone, avec le côté je revis ma vie, je la fantasme ou pas, et je fais des ponts et je passe d'un truc à l'autre de manière assez... En fait, par les vagues d'opium qui me traversent l'esprit à ce moment-là. Donc ça, j'y ai pensé. Et surtout, pour les amoureux du cinéma, il y a eu beaucoup d'adaptations de Marguerite Duras au cinéma. On a déjà dit, elle a fait des films, elle a écrit des scénarios. Mais surtout, récemment, il y a eu un film que je trouve assez passionnant qui s'appelle La douleur, donc adapté de La douleur, de Emmanuel Finkiel, et qui est un film, en fait, c'est impossible de vous expliquer parce que c'est qu'un projet de mise en scène complètement éclaté. Complètement, enfin genre éclaté en mode
éclaté au sol.
Non, en mode en vrai c'est assez ouf le travail qu'il a fait et en fait je trouve que quand tu lis Duras, tu vois, c'est incapable de transcrire ce que ça a été. Bah lui, il a réussi à le faire au cinéma et je trouve en fait le truc hyper fort donc je vous invite à aller le voir. Après, c'est un film quand même, c'est pas la meilleure soirée pizza bière que vous ferez parce que c'est glauque, de la mort qui tue. Merci à toi, Cyril, d'être venu nous voir. Merci à toi, Raphaël.
Merci à toi et à vous. Et la semaine prochaine, on se retrouve musical.
Ouais, pour parler de Madonna avec nos amis. Et on se retrouvera dans un mois. On se retrouvera exactement le 10 avril pour parler à nouveau littérature, puisqu'on parlera des quatre gamines à le docteur Marsh.
Et oui.
De Lusa Marie Alcote, la meilleure Cotelet. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager, à mettre plein de notes sur iTunes, ça nous aide.
Likez.
Sur Instagram, sur Facebook, on est là.
On est partout.
Parlez-en autour de vous, parlez-en à votre caissier. Par exemple, vous pouvez le voir en disant, tiens, j'ai écouté un super podcast. On vous fait des énormes bisous.
Gros bisous. Et on vous dit à la semaine prochaine.
Ciao.
Salut. If you like Pina Coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain, if you'd like making love at midnight in the dunes on the Cape, then I'm the love that you've looked for. Write to me and escape. About my lady, I know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like pina colada. Instant, I knew the curve of her face.
said, oh, it's you. Then we laughed for a moment, and I said, I never knew that you liked me.